L'Église ne cesse de souligner que le rôle éducatif des parents est irremplaçable. Mais pour ce qui concerne l'éducation sexuelle, c'est encore plus vrai, si je puis dire. Personne d'autre que les parents n'est en mesure de mieux réaliser l'éducation morale dans ce domaine délicat. Et Jean-Paul II précise que les parents doivent être préparés de façon adéquate, c'est-à-dire en même temps, c'est évident que ça demande une préparation, c'est un sujet extrêmement délicat qui demande un discernement approprié à chaque enfant. On reviendra là-dessus, c'est une éducation qui doit être personnalisée et graduelle, se faire tout au long du développement de l'enfant. Et donc, le discernement des parents qui voient vivre leur enfant et qui peuvent tenir compte du caractère, de l'évolution, de la maturité de chacun est absolument essentiel. L'éducation sexuelle, en définitive, elle a comme but essentiel la formation à la chasteté. C'est-à-dire que ce soit une expression à la mode. Formation à la chasteté, faisant un athlète du Christ dans ce domaine-là, c'est absolument essentiel pour la croissance dans l'amour véritable. L'éducation sexuelle, elle est liée à tout un climat, à tout un contexte, c'est à l'intérieur d'une éducation à l'amour, de manière plus large. L'Église insiste sur le climat d'affection, spécialement dans les premières années. Bon. Et il insiste aussi même sur la phase, le fait que beaucoup de choses se jouent dans la petite enfance, nous savons. Mais ce n'est pas parce que beaucoup de choses se seraient jouées dans la petite enfance que pour autant, même si on a fait des erreurs, ou s'il y a eu des manques d'amour, si par exemple l'enfant n'a pas été désiré au départ, ce n'est pas parce qu'il y a eu des blessures, tout ça, qu'on ne peut pas faire beaucoup en réparation, en guérison, par une bonne éducation au niveau sexuel. Mais il faut tenir compte que la sexualité, elle est liée aussi à ce qui s'est passé, notamment au départ. Je ne vais pas faire parler Josiane là-dessus, parce que ça fait partie du bagage psychologique de l'homme moderne. Donc, dans cette éducation à... des sexuels comprises au sens large, donc c'est lié à la vie affective familiale, c'est lié aussi plus largement à ce qu'on appelle la maîtrise de soi, évidemment, essentielle pour la chasteté. Cette maîtrise de soi qui, pour l'enfant, doit se vivre aussi, notamment, sur le terrain de la nourriture.
Quand on était jeune ménage, on a suivi des retraites avec un prêtre qui nous avait beaucoup mis l'accent là-dessus, en nous disant si vous n'éduquez pas vos enfants à une certaine maîtrise par rapport à la nourriture, pendant leur adolescence, ils auront d'autant plus de difficultés pour la maîtrise de leur corps au sujet de la sexualité. Donc c'est pas du tout anodin de pas laisser les enfants faire n'importe quoi au niveau de la nourriture. Cette prise de conscience pour nous a été importante. On s'est dit vraiment il y a un enjeu donc dans la petite enfance, l'éducation à la nourriture, d'ailleurs dans les deux sens, je pense que si on crée des énormes frustrations dans ce domaine aussi, ça peut. Mais donc il y a un équilibre de vie et il y a quelque chose il faut être attentif à ça pour.
On a été dans une génération qui a été sur ce plan-là très, très sévèrement éduquée, c'est-à-dire on ne choisit pas ce qu'on mange, on finit son assiette, et avec tout ce que ça comporte. Et on voit aujourd'hui qu'on est complètement dans un sens inverse. Moi, je mange tous les jours dans un self, je suis choqué de voir des assiettes entières qui partent avec des gens qui se servent, qui ne mangent pas. Bon. Mais je veux dire que je le cite parce que derrière, ça a toute une signification. De la façon dont on vit dans le milieu dans lequel on est baigné. Et puis, une autre anecdote, on transportait un jeune, il y a quelque temps, en voiture pour faire 300 km, et c'était impressionnant de voir comment ce jeune, qui avait entre 23 et 25 ans, était dans un état de fébrilité intense parce qu'on ne s'était pas arrêté trois fois pour prendre un café, pour fumer une cigarette, pour etc. Et quelque part, au-delà de l'anecdote qui n'a aucun intérêt, si ce n'est que de se dire il y a quelque chose derrière qui n'est pas en place. Et ça, ça rejaillit, ça a quelque chose, c'est un lien direct avec tout ce qu'il a dit, ce que vient de dire Pierre et Louis sur l'éducation sexuelle.
Vous voyez, derrière ces questions-là, les questions de tempérance, hein, d'éducation à la tempérance, la maîtrise de soi, c'est aussi la vertu de l'espérance qui est derrière. C'est-à-dire pour ne pas chercher à combler le vide dans des petites jouissances immédiates, mais accepter qu'il y ait un certain vide pour que Dieu puisse le remplir, ce vide. Plus on est pauvre, détaché, plus on est apte à espérer.
Je suis d'accord, et en même temps c'est à relativiser, parce qu'il y a des vides qui sont de l'ordre vraiment affectif, et que pour certains enfants c'est vraiment une difficulté de ne pas le combler, de le combler par la nourriture. Alors c'est vrai, c'est douloureux, mais il s'agit d'autre chose, quoi. Je veux dire, on peut éduquer l'enfant effectivement à faire attention, à prêter attention, mais quelquefois y a autre chose qui se met en place, mais qui est d'un ordre plus profond.
Ça suppose aussi qu'on l'éduque à se nourrir de Dieu dans la prière. Hein, Alors, j'ai parlé de l'affectivité dans la vie familiale, la pratique de soi. Je vois que dans les documents du magistère apparaît toujours la question de la pudeur et de ce qu'on appelle traditionnellement la modestie dans le parler, l'agir et l'habillement.
On voit très tôt, en fait, chez le petit enfant, cet éveil qui est assez naturel de la pudeur. Il découvre son corps, il découvre aussi cette différence sexuelle quand il est petit. Et c'est important de lui faire prendre conscience que son corps, eh bien, il est à lui, qu'il doit le respecter, le faire respecter, qu'il est un don de Dieu, que c'est Dieu qui l'a créé, et qu'il ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps, ni avec le corps de l'autre. Et déjà, tout petit, en fait, des bases très importantes de la sexualité peuvent se mettre en place dans cet accueil de son corps à lui, ce respect de sa pudeur.
Il y a ça aussi, une vigilance par rapport aux images que peuvent voir les enfants, qui suppose actuellement une vigilance de tous les instants.
Nos enfants sont, c'est vrai, à notre époque, sont affrontés à énormément de... Ils sont très attaqués par les images qu'ils peuvent voir. Nos enfants, étant petits, j'ai eu le témoignage de plusieurs de mes amis, nos enfants étaient tout le temps invités à des goûters anniversaires, et des amis m'ont dit, nos enfants ont été invités à un goûter d'anniversaire où il n'y avait aucun adulte, et les enfants ont regardé un film, je dirais pas un film pornographique, mais un film avec des scènes très violentes, et il y a eu beaucoup de traumatismes chez les enfants qui ont vu ça. Et donc au niveau de... il y a une vigilance quand même de ne pas laisser les enfants actuellement regarder n'importe quoi, ou s'ils ont vu quelque chose de violent, d'en parler avec eux et de refaire tout un dialogue.
Bon, évidemment, on ne peut pas être simplement à faire la police. Il faut pouvoir surtout donner un message positif sur la sexualité, sur le corps, à la valeur positive de la chasteté, et tout ça dans un climat, finalement, de pouvoir témoigner de la joie que procure la pureté. Dans une conscience du dessein divin, hein, sur l'homme et sur la femme. Si on veut sortir d'un moralisme insipide, au fond, vous voyez, on y reviendra en fin d'après-midi, c'est la question de la sagesse. Parler de tout cela dans un regard de sagesse. Bon, c'est un dialogue. La sexualité est trop intime, elle est liée à trop de choses à la fois qui concernent la vie de l'enfant, son évolution, pour qu'elle soit faite autrement que dans un dialogue personnalisé. Je cite le magistère. Un dialogue personnalisé, donc. Des mères avec leurs filles et des pères avec leurs fils. C'est bien dans cet ordre-là, je ne me trompe pas.
Je relativiserai un petit peu parce que je pense que ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend aussi de quelle aisance le parent a avec le sujet. Il y a des parents qui sont plus ou moins à l'aise. C'est vrai que c'est important qu'il y ait des choses qui soient dites d'un père à son fils et d'une mère à sa fille, ça c'est très important. Peut-être quand l'enfant est petit, plus naturellement, comme cette éducation à la vie, cette éducation à la sexualité, elle se fait dans le quotidien de la vie et dans l'émerveillement de ce qu'est la vie, le corps, l'amour. Eh bien, quelquefois, peut-être quand l'enfant est petit, c'est peut-être plus la maman qui va disperser, j'allais dire, cette éducation au goutte à goutte. Moi, je crois que c'est pas un jour je parle avec mon enfant, mais c'est au fur et à mesure des petits événements de la vie, hop, j'attrape la petite chose qui fait que je vais saisir l'occasion de porter cet émerveillement sur la vie, sur le corps, sur l'amour, sur la beauté de l'homme, de la femme, notre différence. Et voilà, du coup, je trouve que ça se fait beaucoup au départ dans le quotidien de la vie. Et puis après, il y a des moments avec l'adolescence où en effet, c'est important d'aborder de façon plus personnelle des choses importantes qui concernent l'enfant à un âge précis.
Alors nous, pour les enfants, assez vite quand même, petits, très petits, quand même dès, je sais pas, 3-5 ans, on les prenait personnalisés, c'est-à-dire un seul, on les gardait un soir, Philippe et moi, ensemble. Philippe avait beaucoup de difficultés à aborder le sujet tout seul. Et n'ayant pas, dans sa famille, n'ayant pas reçu ça, ça l'angoissait beaucoup de le faire. Donc nous, s'il avait fallu que ça soit l'homme tout seul, il me disait, moi si c'est l'homme tout seul, je le fais pas. Donc en fait, on se mettait tous les deux, on gardait l'enfant avec nous et quelque part, il était fier qu'on s'occupe de lui tout seul. Et en fait, nous, on s'est beaucoup aidé des livres du professeur Joyeux. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ce sont des livres où vous avez de 3 à 6 ans, enfin de 10 à 13 ans, de 15 à 20 ans, tout ce qu'on peut dire et échanger avec un enfant. Et donc, nous, on s'en imprégnait. C'est un dialogue qui est facile, ces questions et réponses, toutes les questions que se posent les enfants. Et les réponses données par le professeur Joyeux. Et c'est des bonnes pistes. Hein. Moi, on s'en est servi sans arrêt, nous. Et en fait, ça permet de lancer le dialogue, de prendre les questions et de discuter avec l'enfant, avec le livre à la main. Nous, on disait, bah, qu'est-ce que t'en penses de ça, etc. Puis de lancer le dialogue. Une fois que le dialogue était lancé, d'ailleurs, pour Philippe, c'était facile. Au début, il n'aimait pas lancer le truc, mais après, moi, je m'apercevais qu'il prenait vite le truc et je pouvais à la limite m'en aller si c'était pour avec un garçon, pour qu'il puisse aller plus loin. Mais en fait, on a eu besoin de s'entraider dans ce domaine. Mais quand même, moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est on peut laisser courir la vie et puis oublier, enfin, ne pas s'apercevoir que son enfant grandit. Et moi-même, je me disais, attends, on l'a fait avec celui-là, est-ce qu'on l'a fait avec lui? Lui, on lui a parlé de ça, mais est-ce qu'on en a parlé à l'autre? On ne savait plus, quand il y en a beaucoup, on se disait, attends, est-ce que je l'ai dit? Est-ce que je l'ai fait avec lui? Et du coup, il ne faut pas hésiter à y revenir souvent. Je crois qu'il vaut mieux le faire, y rire en me disant, mais tu me l'as déjà dit, bon, c'est pas grave. Mais il vaut mieux y revenir souvent. Et je me suis aperçue quand même que c'était un sujet qui les intéressait vraiment. Et c'est aussi un endroit où nous, on a repéré justement certaines blessures qu'ils vivaient. Mais en fait, le fait, on a vu souvent dans cette relation qu'on avait avec un enfant seul, s'il y a des soucis ou des choses, on le voit bien dans son comportement. Si on a pris l'habitude régulièrement de revenir sur le sujet, eh bien l'enfant... on voit bien s'il est ouvert, fermé, s'il va bien, s'il va pas bien. On repère des choses et ça va pouvoir peut-être les aider à sortir, surtout avec ça, parce qu'il y a tellement de choses à aborder, tout est abordé, hein, vraiment. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a différents âges. Mais moi, j'ai remarqué pour mes enfants que ce qui était dit à 10-13 ans, c'était plutôt 3 ans avant. Hein. Mais parce que les enfants entendent tellement de choses, donc vaut mieux faire trop tôt que trop tard. Parce que autrement, après, c'est d'autant plus dur d'en parler s'ils ont été choqués. Donc voilà. Tu voulais dire ?
Je voulais dire que si les enfants tout petits sentent que c'est un sujet dont on parle librement à la maison, s'il y a un petit souci, s'il y a quelque chose qui les a blessés ou je sais pas quoi, très vite ils vont nous en parler. Par exemple, je sais pas, nous ils vont à la piscine déjà en primaire. Bon, bah quelquefois il y a des enfants qui ont des comportements qui sont pas justes. Mais l'enfant assez facilement viendra en parler s'il voit qu'on parle de ces sujets facilement à la maison. Par contre, si c'est très secret, si on n'en parle pas, bah, du coup ils vont rester avec ce qu'ils ont pu vivre de douloureux sans oser en parler. Et donc c'est vraiment important de parler des choses suffisamment tôt.
Alors, j'ai une petite histoire qui est belle. J'ai mon petit-fils, un de mes petits-fils qui, à l'occasion d'une grossesse de sa maman, lui pose des questions. Il avait 5 ans. Et il posait tellement de questions précises qu'ils se sont dit, bon, allez, faut y aller, hein, faut tout dire. Et alors, donc, le soir, avec le papa, ils se sont réunis, ils ont tout expliqué. Et lui, il était tellement content, il a tellement été émerveillé qu'il leur a dit, oh, bah, écoutez, les parents, la prochaine fois que vous faites un enfant, vous m'appelez. Hein. Il trouvait ça mais passionnant. Mais en fait, c'était hyper chouette. Les enfants, si on en parle beaucoup, ils sont très à l'aise. Et c'est nous qui sommes les plus mal à l'aise au départ. Mais eux, ils sont étonnants. Moi, je suis sidérée des conversations qu'on a pu avoir avec eux. Et c'est dommage de passer à côté. Quoi.
Pour nous, quelquefois, en tant que parents, on n'a pas reçu forcément cette éducation de la part de nos parents. C'était une génération où on parlait pas beaucoup de toutes ces questions de la sexualité. Du coup, on n'est pas forcément à l'aise pour en parler avec nos enfants. C'est très, très important de lire, de se former, de se documenter. Bon.
Anne-Claire,
des titres d'ouvrages, moi j'en ai d'autres, bon, par exemple celui-là, mais c'est vraiment, s'il te plaît, parle-moi de l'amour d'Inès Pélissier du Rosas, ou Conseil pour une éducation affective et sexuelle, ça c'est le père Finet avec Marthe Robin dans le cadre des foyers de charité. C'est vraiment important de se former pour trouver cette délicatesse du langage en fait. Pouvoir trouver les mots justes, adaptés à chaque âge. Voilà. C'est un sujet très très délicat et qui demande d'être abordé avec beaucoup de beauté. En fait.
Vous aurez sans doute noté que c'est évidemment important que l'enfant voit bien que les deux parents sont sur la même longueur d'onde. Et pour moi qui étais un peu coincé au départ, ça a été quand même un bon moyen de rentrer dedans par le biais des conversations plutôt que de dire viens mon fils, j'ai des choses à te dire, je voyais pas du tout rentrer là-dedans, mais le fait de rentrer dans une conversation et où l'enfant s'aperçoit qu'en plus entre les parents c'est très transparent, c'est quand même très important pour lui.
Oui, je pense aussi que ce qui est très important, enfin moi qui m'a semblé très important, c'était que pour nous déjà, ça soit clair, la sagesse de Dieu sur l'acte conjugal, quoi. De savoir que c'était beau. Moi je me souviens que les enfants, je leur disais, si sur une étagère, enfin c'était un petit truc que j'avais trouvé mais qui leur parlait finalement, si sur une étagère il y a un beau vase en cristal et un vase en alu, si les deux tombent par terre, le vase en cristal il explose, et le vase en alu il va peut-être être un peu cabossé, mais et je leur dis, vous voyez, la sexualité c'est un vase en cristal, et dans notre monde, eh ben il est tombé par terre et ça a explosé, c'est n'importe quoi, et donc de leur montrer qu'ils vont être affrontés, de leur dire à l'avance, vous allez être affrontés à plein de bêtises dans ce domaine. Plein de choses éclatées, et nous, on voudrait vous montrer le sens, enfin la beauté de ce vase, quoi, et de comprendre, et du coup, d'être averti qu'ils vont entendre beaucoup de bêtises. Et le fait d'être averti, ça leur a permis de nous en parler. Moi, j'ai été étonnée du nombre de fois où ils sont venus me dire « Ouais, mais alors j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. » Donc, si on leur a bien dit qu'ils allaient être affrontés à ces difficultés-là, à l'avance, ben, un homme averti en vaut deux, quoi.
Est-ce qu'il est besoin de faire par phase, je dis c'est une éducation personnalisée et graduelle, pour reprendre l'expression utilisée par le magistère. Est-ce que l'on fait la... On parle un peu de la petite enfance. Je souligne l'importance du confesseur, si possible d'un même confesseur, pour accompagner l'enfant, évidemment pour l'aider dans son combat et l'aider à ne pas rester enfermé dans la culpabilité notamment.
À ce sujet-là, on a eu énormément de prêtres qui passaient les vacances à la maison. Et les enfants, j'ai su longtemps après... plusieurs de mes enfants qui m'ont dit, mais en fait, à des moments de difficulté, on a pu en parler. En particulier, il y avait un prêtre qui venait tout le temps, qui s'appelait Père Cœur, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Il s'appelait Cœur, c'était génial. Je trouve pour un prêtre de s'appeler Cœur. Et mes enfants m'ont dit, mais tu ne peux pas te rendre compte le nombre de fois où il nous a éclairés. Et nous, on s'en est pas aperçu. Ils passaient les vacances à la maison, et en fait, les enfants, naturellement, quand ils avaient des soucis, ils lui demandaient. Et je pense que pour eux, ça a été, maintenant on se dit, ça a été une grâce. Je pense que c'était dans les deux sens. Lui disait que c'était une grâce pour lui de vivre dans une famille. Mais je peux vous dire que nous, ça a été une grâce pour nous d'avoir un prêtre à la maison souvent.
Alors, dans la petite enfance, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les premières informations, souvent... l'enfant, là, par l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, donc tout petit, il y a cet émerveillement sur la grossesse, le changement du corps de la maman, ce petit bébé qui est dans ce berceau d'amour de la maman, et puis ce petit bébé qui va arriver, qu'on sent bouger, qui va naître. Et à ce moment-là, très souvent, il y a déjà des questions, parce que l'enfant s'émerveille de cette beauté. Et c'est important, par exemple pour un petit dernier qui lui va pas avoir de petit frère ou de petite sœur après, de pouvoir porter, l'aider à porter sur une maman qui attend un bébé, qu'on croise, l'aider à porter ce regard d'émerveillement sur la beauté de la vie qui jaillit.
Il y a ensuite ce que Jean-Paul II appelle les années de l'innocence. Les années de l'innocence, c'est-à-dire les années jusqu'à la puberté, où l'enfant n'est pas particulièrement intéressé par ces questions-là, plutôt tourné vers les camarades du même sexe, mais auxquels, malgré tout, actuellement, ils peuvent être confrontés à des, comme on l'a déjà dit, à des informations immorales. Est-ce que vous vouliez... Non, ça va ? Vous vouliez rajouter quelque chose ?
C'est vrai que c'est important que cet émerveillement sur la vie, il se fasse de façon toute simple dans la famille. Moi, je me rappelle le jour où notre fille a eu ses premières règles. On avait fait un petit dîner de fête. Puis elle m'avait dit, oh, je sais pas si je vais en parler à mes frères. Bon. Et puis j'avais dit, bah écoute, c'est toi qui vois, mais en même temps, c'est quand même un grand jour pour toi. C'est quand même, voilà, bon. Donc on avait fait un petit dîner de fête à la maison, et puis ça a été l'occasion d'en parler simplement avec tout le monde. Et le lendemain, son frère aîné est arrivé à la maison avec un gros bouquet de fleurs pour elle. Elle n'en revenait pas, et je trouvais que voilà, c'était.
Mais ce qu'on dit là, c'est pas des normes. Chaque famille doit voir, parce qu'on fait pas des choses qui vont contre nous-mêmes. Si chaque famille va trouver sa route, mais ce qui est l'essentiel, c'est de ne pas laisser ça de côté et d'être attentif à chaque enfant, quoi, de se dire, est-ce que moi j'ai été obligée de faire attention en disant, est-ce que celui-là je ne l'ai pas oublié dans le lot, et donc c'est une attention, mais faut pas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas faites comme ça, hein, c'est...
Je pense aussi qu'il faut quand même respecter la pudeur de... Enfin, moi je trouve que les enfants ont quand même une certaine pudeur et qu'il faut quand même respecter cette pudeur. Et que si... Parfois si on essaye de leur parler et qu'on sent que... voilà, il ne faut pas non plus les forcer, les mettre mal à l'aise... voilà, à tout prix pour leur parler. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais
c'est ce que Louis disait tout à l'heure. Ça se fait dans une ambiance affective. Enfin, dans une ambiance, il n'y a pas à forcer. Mais quand justement, moi, je me dis quand il y a l'enfant et moi, j'ai vu que ceux qui avaient été blessés, justement, il fallait 10 fois plus de délicatesse pour aborder le sujet. mais pas renoncer. Je pense que de renoncer à aborder ce sujet, on les met vraiment en difficulté. Mais bon.
Je pense quand même qu'on ne peut pas, démissionner sur cette question. On est obligé en tant que parent d'en parler. C'est vraiment, ça fait partie de notre rôle. Parce que de toute façon, les enfants vont en entendre parler. Et ils vont en entendre parler avec des mots de leurs copains qui auront vu tel truc. Ce ne sera pas avec la délicatesse que mérite cet amour conjugal, cet émerveillement. Et c'est vraiment à nous d'anticiper et d'en parler à nos enfants. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et qu'un enfant, quelquefois, il peut avoir du mal à ce qu'on parle de ce sujet avec lui. Il n'empêche que je crois que profondément, il a une soif, il attend de savoir quelque chose sur cette question.
Donc effectivement, c'est important, mais les parents peuvent être à l'écoute de leur enfant et être centrés sur l'enfant, parce qu'effectivement, il y a des enfants qui sont plus pudiques que d'autres et qui pourraient avoir l'impression que on va trop loin en leur parlant de certaines choses. Et ça, c'est vraiment une question d'écoute. Les parents connaissent bien leurs enfants pour ça, je crois. Et il est vrai qu'à la puberté, il ne faut pas oublier que les ados redeviennent extrêmement pudiques. C'est quelque chose à respecter pour eux. Et dans un monde où tout est sexualité, il faut vraiment, vraiment bien faire attention à ça et respecter ça chez eux.
Ouais. Oui, et puis on peut quand même se poser la question de savoir si jusqu'à un certain stade, ça ne peut pas être une fuite. C'est vraiment dans la durée très très longtemps. Et on s'est posé la question entre nous en discutant, en préparant. Dans certaines situations, il y a des enfants même qui avaient pu exprimer que « ben c'est pas la peine de m'en parler, de toute façon je suis au courant de tout ». Bon, en rester à une question technique, ça pose aussi un problème. C'est qu'en fait, les parents, ils ont autre chose à dire, me semble-t-il, que simplement. Bon, voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'effectivement, c'est de la navigation à vue, hein, ça c'est vrai.
Il y a aussi une chose qui nous avait aidé, nous, c'est les conférences du professeur Joyeux, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres maintenant. Il y a Teen Star, c'est pas ça ? Oui. Il y a des occasions comme ça. Nous, à l'occasion d'une conférence du professeur Joyeux, il y a nos fils qui a vraiment vécu quelque chose de très fort et qui a pu nous parler, alors qu'avec nous, ça n'avait pas été direct. Donc, il y a mille occasions, hein, et mille moyens. Et aussi ces petits livres-là, une fois qu'on les regardait avec eux, mais on les laissait traîner dans leur chambre après, je sais très bien qu'il est potassé.
Bien, on va arrêter là. Moi, je pense que il faut relever le défi jusqu'au bout, c'est-à-dire arriver à dire la beauté de la virginité, ce qui n'est pas évident pour des parents qui n'ont peut-être pas vécu avant le mariage. Mais c'est là où, en éduquant son enfant, on s'éduque soi-même. Et on se dépasse, comme dit Saint Jean Chrysostome. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.